J'ai quelques slides, un petit peu de bashing parisien. Donc, si vous croyez dans les classements des magazines, eh bien, je viens d'Angers, donc venez vite, mais pas tous ensemble, sinon le prix du mètre carré va augmenter de manière dramatique. Donc, c'est une petite université. Si vous croyez dans le ruissellement académique, on a eu notre premier prix Nobel l'année dernière, puisque le prix Nobel de la paix est un ancien étudiant de l'université d'Angers, donc il a œuvré pour, enfin tout le travail, il a eu ce prix pour tout le travail qu'il a fait pour les femmes en Afrique qui étaient victimes de l'excision. Donc voilà, c'était un ancien étudiant de la partie hospitalière d'Angers. Et alors, moi, historiquement, je venais de la physique, mais aujourd'hui, je me présenterai comme un data scientist de terrain. Donc, les data sciences, sciences des données, c'est un peu un terme nouveau qui va à l'interface ou à l'intersection des mathématiques, des sciences informatiques, de l'informatique, et puis de différents domaines d'application. Donc, à partir du moment où vous êtes baigné dans les données, quelque part, vous êtes aussi un petit peu concerné par ce domaine-là, en tant que citoyen qui produisait des données, par exemple, et dont j'y reviendrai un petit peu plus tard. Et puis, donc, je travaille à l'Université d'Angers, puis en collaboration avec un centre INRA. Je vais vous donner quelques exemples de ce qu'on fait. Alors moi, à Angers, c'est le bassin parisien, là, c'est le grenier de la France, on dit, hein, la Beauce, tout ça. Et puis le Maine-et-Loire, c'est, on appelle ça des fois le verger de la France, donc c'est là où il y a tous les potagères, légumes, etc., qui sont faits par là. Donc assez naturellement, il y a un des 22 centres INRA français qui est installé à Angers. Et on s'intéresse à la qualité des plantes horticoles et aussi à la santé de ces plantes. C'est très important à l'époque du changement climatique, puisqu'il y a des interactions entre les plantes et les pathogènes qui évoluent. On étudie ça dans des milieux de quarantaine pour voir un petit peu comment ça se passe. Et donc pour les étudier, vous voyez en rouge, il y a un mot anglais là, HT phénotyping, ça veut dire high throughput phénotyping, en bon français, phénotypage haut débit, c'est-à-dire qu'on va essayer de mesurer sur des populations entières de plantes les traits physiques de ces plantes. Pour illustrer un petit peu plus, ça veut dire que dans nos locaux, dans mon équipe, on a développé un certain nombre de techniques d'imagerie, un peu comme celles que vous pourriez retrouver dans un hôpital. On a des IRM, des scanners, des imageries pour faire de la fluorescence, pour regarder l'état de santé des plantes. Et ça, on est obligé de le faire parce qu'il y a une certaine plasticité du vivant sur des grandes populations de plantes pour pouvoir discriminer et identifier si telle ou telle variété va être résistante à telle ou telle maladie ou comment se développe telle ou telle maladie au moyen de ces systèmes d'imagerie. Donc vous voyez, je ne suis pas avec Google, je ne suis pas dans un géant comme ça, mais du fait qu'on va travailler sur des populations de plantes qui sont importantes, on va assez vite atteindre des régimes de data, de données, qui sont ceux des géants du numérique que vous connaissez tous, parce qu'on est... On manipule plus facilement des grandes populations que, par exemple, dans le domaine médical, où, pour des raisons à la fois éthiques, de propriété des données, rassembler des quantités de données sur des populations entières, ça va prendre un peu plus de temps. Très facile d'avoir des données sur, par exemple, en une image, vous voyez en haut à gauche, on a des centaines de plantes qui sont, de graines qui sont imagées, donc on va atteindre des débits d'observation de population très grands, et donc du coup, on se retrouve avec ces questions de science des données, d'apprentissage machine, sur lesquelles je vais revenir après. Alors, de quoi on va parler dans la conférence d'un cas particulier de l'apprentissage machine qui s'appelle le deep learning. Alors, je vais... Oui, tout à fait. Alors malheureusement, donc on va donner la traduction de tout ça. Malheureusement, c'est en ces termes-là que vous les trouverez dans les magazines. Et donc, deep learning, ça veut dire apprentissage profond. Et on va expliquer ce que ça signifie. Alors, cet apprentissage profond que vous allez retrouver effectivement dans les magazines, dans les interventions des politiques, puisque même les rapports du Sénat sont bourrés de ces anglicismes que vous venez de dénoncer. Donc, cet apprentissage profond, c'est un sous-domaine de l'apprentissage machine, qu'on va trouver aussi en anglicisme machine learning, et puis qui lui-même est un sous-domaine de l'intelligence artificielle. Donc, par intelligence artificielle, ici, on va entendre le fait de pouvoir comme ça a été dit dans l'introduction, faire reproduire par des machines des tâches qui sont jugées comme complexes pour les humains. Donc typiquement, faire raisonner une machine, faire qu'une machine puisse planifier des tâches, faire qu'une machine puisse représenter des connaissances de manière structurée. Et puis ce dont on va parler aujourd'hui, faire en sorte que des machines puissent apprendre à réaliser une tâche. Donc, par exemple, reconnaître telle ou telle maladie de plante à partir d'une image, ou telle ou telle espèce de plante à partir d'une image. Et à l'intérieur de ce domaine du machine learning, il y a le cas du deep learning, donc l'apprentissage profond, qui est finalement aujourd'hui, qui sont les méthodes les plus efficaces et les plus performantes et celles qui sont appliquées très largement dans toute la communauté de l'apprentissage automatique. Donc voilà, je démystifie un petit peu là, parce que des fois il y a une confusion entre ces mots-là. Intelligence artificielle, c'est pas la même chose qu'apprentissage profond. Il y a ce jeu de poupées russes, d'imbrication. L'intelligence artificielle est plus large que l'apprentissage automatique, qui lui-même inclut ce dont on va parler aujourd'hui. Alors, je vais essayer d'illustrer comment on va arriver à faire à ce qu'une machine puisse apprendre à réaliser une tâche. On va le faire de manière supervisée. Alors, ça va être un petit peu technique, mais je vais illustrer avec quelques images ici. C'est-à-dire en le faisant apprendre à la machine par des exemples. Donc, typiquement ici, imaginons que j'ai un jeu d'images et je souhaite à ce que la machine soit capable de différencier par elle-même entre ces trois objets. Donc bien sûr, pour vous, humains, vous voyez bien qu'il y a une serre, une feuille et un poivron. Comment est-ce qu'une machine va pouvoir arriver à faire cette distinction? Ah, il y a un jeu de table qui n'est pas favorable. Alors, comment on va faire? Bien, on va d'abord traduire ces images en des nombres, c'est-à-dire en des termes que l'ordinateur va être capable de comprendre. Donc, quels peuvent être ces nombres? Par exemple, ça va pouvoir être la taille de l'objet. La serre est plus grande que la feuille, qui est plus petite que le poivron. Ça va pouvoir être la couleur, qu'on va pouvoir également encoder au moyen des images. Ou encore la texture, qu'on va pouvoir aussi coder sous la forme de nombres. Et donc, on va avoir autant de nombres qu'on le souhaite pour essayer de différencier ces différents objets. Et c'est dans cet espace de représentation des nombres qu'on va représenter nos différents objets. Donc, par exemple, imaginez ici que vous avez sur l'axe horizontal la taille, et puis sur l'axe vertical, par exemple, un nombre qui serait lié à la couleur des objets. Donc ici, on voit que les serres vont se retrouver dans un coin, les feuilles dans un autre coin, et puis les poivrons dans un autre coin. Bien sûr, ça, c'est si les nombres qu'on a choisis sont bien adaptés, c'est-à-dire qu'ils discriminent, qu'ils séparent bien les différentes parties qu'on veut faire apprendre à la machine. Et voilà, la machine est prête, elle a été entraînée, elle a un espace de représentation qui n'est pas du coup un espace de représentation qui parle à un humain, mais qui va pouvoir parler à la machine. Et ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va faire voir à la machine une nouvelle donnée qui n'était pas dans la base d'apprentissage, sinon ça n'a évidemment aucun sens, hein, ce serait de l'apprentissage par cœur, et c'est pas ça qu'on veut faire. On lui prend une image d'un objet qui est représenté dans la base de données d'apprentissage, et on va calculer les mêmes nombres, on va calculer les nombres associés à cette image, et puis on va venir regarder où se situe dans l'espace de représentation, les nombres associés à cet exemple. Et puis, tout simplement, on va faire, par exemple, derrière, on pourrait avoir l'idée d'aller regarder quels sont les voisins de cette petite croix rouge qui représente l'exemple que je veux faire reconnaître à la machine. Si tous les voisins sont majoritairement des poivrons, je vais décider que, par une mesure de distance, dire les plus proches voisins sont des poivrons, donc je vais dire j'ai détecté un objet qui est de type poivron. Et la plupart des méthodes de ce qu'on appelle intelligence artificielle fonctionnent comme ça, c'est-à-dire par un apprentissage par l'exemple, et puis une représentation dans un espace qui ne parle pas aux humains, mais qui va parler à la machine, et la machine va calculer des distances in fine pour prendre une décision. Ouais. Ça, c'est une tâche de classification. Ah. C'est trop dur. Je vais reprendre avec d'autres exemples ici, faut se représenter ça. Donc vous avez tous eu des représentations comme ça, où à l'école ou la présentation selon deux axes. Donc là, on met un nombre. Donc effectivement, ce nombre, ça peut être taille, ici couleur. Et puis, on va représenter ça et on va chercher, quand on a un nouvel objet, quels sont ses proches voisins. Et puis la machine va toute seule dire, bah, par rapport à l'apprentissage, à l'expérience que j'avais acquis durant ma phase d'apprentissage, je dis que tout ça, c'est plus proche, ce point, il est plus proche de ce qui représentait des points qui étaient des poivrons. Donc, je décide, voilà, j'ai un poivron. Alors ça, c'est une tâche de classification. Les machines, on peut leur faire faire d'autres choses. Donc par exemple, je vais aller vite sur celui-ci, comme une régression. Donc typiquement, admettons qu'on n'est plus intéressé par détecter des états fixes comme serre, feuille, poivron, mais qu'on voudrait avoir un continuum, une continuité de mesure. Donc par exemple, si je souhaite prédire la maturité d'un fruit à partir de sa couleur. Donc ici, j'ai un fruit qui est vert, un fruit qui change de couleur, puis progressivement je vais aller vers le rouge. Je ne sais pas si les couleurs sont bien traduites ici, sur mon écran c'est un peu plus fidèle. Et donc je vais mesurer la maturité par exemple par un goûteur ou un testeur qui va donner une indication de cette maturité. Et puis avec mon image, je vais venir mesurer la couleur. Donc à gauche je suis plutôt vert, donc pas vraiment mûr. Et puis à droite j'ai atteint une maturité qui est plus proche, plus propre à la consommation. Vous voyez que là, j'ai une gamme d'exemples qui ne couvre que certaines valeurs, mais je vais pouvoir ce qu'on appelle interpoler entre les différentes valeurs, de manière à ce que si je prends un autre fruit, une nouvelle image, je mesure sa couleur, elle n'était pas forcément dans les valeurs que j'avais mises à la machine pour entraîner, mais en interpolant cette courbe, en faisant ce qu'on appelle une régression, je vais pouvoir prédire sa maturité. D'accord. Donc là, il y a une continuité de valeurs qui est possible. Donc tout à l'heure, c'était une classification, on n'avait qu'un nombre d'états limité. Et là, en fait, on a une continuité de valeurs qui sont possibles là-dedans. Voilà, donc là, voilà comment on fait pour faire apprendre aux machines sur la base d'exemples. C'est ça qui est important à retenir ici. Et donc, on va pouvoir prédire la maturité associée à partir de la couleur en ayant deviné, en ayant interpolé à partir des points qui avaient été rentrés dans la base qu'on appelle d'apprentissage. Alors ça, c'est l'apprentissage machine classique. Et vous avez vu que là, il y a quelque chose qui peut-être vous a échappé, c'est comment est-ce qu'on définit ces nombres. Je n'ai pas été très précis sur ces histoires de nombres. La taille, on imagine bien comment mettre un nombre sur la taille. La couleur, si vous n'êtes pas spécialiste du domaine d'image, ça ne vous parle pas forcément. La texture, peut-être encore moins. Et donc, on comprend que pour pouvoir traduire dans ces espaces de représentation qui vont parler à la machine, pour trouver ces nombres, il faut une expertise. Il faut un ingénieur pour déterminer sur quelle base de nombres on va faire ce calcul. Et donc ça coûte énormément dans les entreprises qui font du traitement d'image. Et donc pour réduire les coûts, ben, on va enlever l'humain. Et dans l'apprentissage profond, non seulement la manière de combiner, de prendre des règles de décision dans l'espace de représentation va être appris par la machine, mais les nombres sur lesquels l'image va être calculée vont être elles-mêmes appris par la machine. Et donc du coup, on va court-circuiter la partie humaine qui demandait une expertise, et qui demandait en plus une expertise souvent interdisciplinaire, parce que là, si quelqu'un n'y connaît rien en fruits et légumes, il a besoin d'aller discuter avec l'expert des fruits et légumes. Évidemment, c'est un exemple très bateau, mais vous imaginez que si on passe dans le domaine médical, il va falloir comprendre ce qu'il y a dans les images, discuter avec des radiologues, etc. Et donc là, finalement, on va juste avoir besoin que l'expert radiologue, pas forcément expert traitement d'image, dise « ça c'est sain, ça c'est pathologique », ou ça c'est une tomate verte, ça c'est une tomate mûre, quel que soit le domaine d'application, on va juste avoir à dire ça j'en veux, ça j'en veux pas, ça c'est tel score, et la machine va ensuite trouver elle-même l'espace de représentation sur lequel elle va pouvoir prendre la décision. Donc on comprend d'emblée, je vais y revenir après, que ça va avoir des conséquences économiques, politiques à ces choses-là, puisque il y a tout un niveau de formation assez haut qui va en fait être court-circuité ici. Et je voudrais insister là-dessus ce soir, sur le fait que l'intelligence artificielle ne va pas seulement peut-être perturber les emplois dans des domaines peu qualifiés, mais y compris dans des domaines qui étaient très qualifiés, comme là, l'ingénierie qui consistait à être capable de traduire en des termes géométriques une réalité d'image, et donc ce qui demandait un niveau de qualification relativement élevé. Alors, à quoi peut servir le deep learning? On va arriver sur des choses assez pratico-pratiques. Alors, si vous êtes passé devant les colonnes vendeuses de magazines, vous avez déjà pu assister à ce type de spectacle depuis 2012, en grosso modo. Il y a eu une révolution qui date à peu près de ça. Donc, l'intelligence artificielle, donc il y a des journaux un peu plus orientés vers le business, donc comment profiter du nouveau monde, Philosophy Magazine, comment sauver l'intelligence naturelle, Science Magazine, est-ce qu'on va remplacer le cerveau humain, Courrier International, la machine à fantasmes, parce qu'effectivement, on a l'impression que ça va tout bousculer, et donc on sait plus bien comment ça va marcher derrière. Et puis, la famille chrétienne, l'église hors jeu, donc chacun y voit un petit peu quelque chose. Donc, il y a beaucoup de discussions, et on va essayer de rentrer sur des aspects beaucoup plus pratiques, indépendamment des fantasmes, de savoir ce que ça peut changer plus tard, déjà ce que ça change aujourd'hui. Et c'est de ça dont je voudrais parler aujourd'hui. Alors, puisqu'on est dans un cadre de réflexion aussi laïque, là, je dois dire que mode, science et société, puisque là, il y a clairement un effet de mode, hein, quand on voit ça, c'est que là, depuis 2012, il y a eu beaucoup de manchettes, ça a vendu des magazines, il y aura une autre mode qui viendra derrière. C'est, bon, cette histoire de mode, science et société, c'est une constante. On l'a eu au moment du début de la laïcité, fin 19e siècle notamment, où on était dans une époque où les sciences étaient très mises en avant, en France notamment, au moment de la radioactivité. Vous voyez, hein, on savait pas bien à quoi ça allait servir, la radioactivité. Aujourd'hui, on sait qu'on peut produire de l'énergie, qu'on peut faire de la radiothérapie, etc. Mais donc, on vendait aussi des produits comme de la laine auto-chauffante à l'uranium. Donc, on plaint les pauvres enfants qu'on pu bénéficier de ces petites polaires, ou encore des crèmes pour régénérer l'épiderme au radium, ou encore des eaux qui étaient naturellement gazeuses. Donc on voit qu'on est dans une phase actuellement où, par rapport à ces discussions de qu'est-ce qu'on va faire de l'intelligence artificielle, il y a une part d'écume qui ne résistera pas là, mais il y a aussi une part de réalité, puisque j'ai pas mis, mais il y avait aussi les aspects de médecine qui apparaissaient à ce moment-là. Et en fait, bon, je ne suis pas historien, mais je pense que ça vient aussi au moment du siècle des Lumières, où, au moment où il y a eu les découvertes sur l'électricité, on électrisait des repas, des poulets, et en même temps, on mettait au point le paratonnerre. Alors, il y avait aussi des modes où on mettait un paratonnerre sur des robes pour éviter de se faire électriser. Et puis, en même temps, il y avait aussi des applications sur l'utilisation de l'électricité en médical, qui continue en fait aujourd'hui. Donc c'est très difficile de savoir ce qui va être durable ou pas dans cette phase d'agitation dans laquelle on est par rapport à ce sujet. Et donc il faut être conscient de ces aspects-là. Alors, est-ce que ça sera le même destin pour l'apprentissage profond, hein, le deep learning? Alors, ce type de courbe, c'est ce qu'on appelle les courbes de buzz, c'est-à-dire un petit peu de tapage médiatique, où on sait qu'à un moment donné, il va y avoir, ça représente l'attention qu'il y a dans les médias. Au début, ça démarre très fort, ça passe par un pic de visibilité, puis ensuite ça redescend, et ensuite on est sur une phase de croissance qui est en fait bien moins forte que ce que c'était au départ. Alors les vraies révolutions, c'est celles qui finalement perdureront derrière, indépendamment de la vague médiatique qui précède leur utilisation réelle. Et ce tableau date de 2016, donc on voit que le mot machine learning, là, donc apprentissage machine, se retrouvait au pic de l'attention médiatique en 2016, déjà il y a 3 ans. Et aujourd'hui, effectivement, moi je travaille avec un certain nombre d'entreprises, là, ils utilisent ces techniques-là, pas uniquement pour faire joli sur les plaquettes, mais parce que ça marche mieux que dans les méthodes d'avant. Alors en fait, je voudrais vous dire que ce sont en fait de vieilles technologies. On va faire un tout petit peu d'histoire sur ces choses-là, puisque ces technologies d'apprentissage machine, elles datent des années 60. Les tout débuts de l'informatique, les pionniers des premiers ordinateurs avaient imaginé des systèmes d'apprentissage à base de réseaux de neurones. Je vais expliquer un peu plus en détail à quoi ça correspond. Et toutes les bases de ce sur quoi fonctionnent les machines aujourd'hui pour faire cet apprentissage sans les humains existaient déjà, grosso modo, au plus loin, là c'est 1986, et puis certains des principes avaient été introduits déjà dans les années 60. Et puis il y a eu ce qu'on appelle un hiver de l'intelligence artificielle, parce qu'il y a d'autres méthodes qui ont pris le dessus pendant une vingtaine d'années. Et il s'est passé un phénomène sur lequel je voudrais revenir. Alors il y a un personnage clé, c'est ce personnage, Geoffrey Hinton, qui est toujours très actif dans le domaine. Et ce Geoffrey Hinton, il a eu l'idée d'utiliser les cartes graphiques des ordinateurs. alors c'est peut-être un terme technique, pour que si vous avez dans vos familles des joueurs de jeux vidéo, ils ont besoin d'une carte graphique pour que les images arrivent très vite quand ça s'anime, quand ils jouent aux jeux vidéo. Et ces cartes graphiques, elles sont donc capables de faire des calculs en temps réel de manière très rapide. Et il y a eu des gens qui ont eu l'idée, si on les utilisait pour autre chose que faire des jeux vidéo, mais pour plutôt faire de la science. Et donc ça a changé la donne. Alors, je suis désolé, la qualité graphique là est un petit peu faible, mais ce personnage, donc Geoffrey Hinton, en 2012, il s'est frotté à ce qu'on appelle un challenge, c'est-à-dire un concours de traitement d'image qui est basé sur cette base de données qui s'appelle ImageNet. Et il s'est mis à gagner le concours. Donc je vais vous expliquer plus à quoi ça correspond. Ce concours, c'est vous avez grosso modo 1 million d'images là, et puis on veut entraîner une machine à reconnaître ce qu'il y a dans l'image. Donc ici être capable de dire est-ce qu'il y a une coccinelle, ici être capable de dire qu'on est sur la neige et qu'il y a une motoneige, etc. Et donc ces images ont été finement annotées et on va regarder quel est l'algorithme qui se rapproche le plus de la vérité qui a été annotée par des humains. Et en 2012, ce Geoffrey Hinton, il a battu tout le monde, et d'un facteur qui n'était pas un pouillème, un troisième ou quatrième chiffre derrière la virgule, d'un facteur très significatif. Et qu'est-ce qui s'était passé? Il s'était juste passé qu'il s'était mis à utiliser ses cartes graphiques et qu'il avait accès à des banques de données qui étaient plus grandes. Donc notamment ici, 1 million d'images. Vous vous rendez compte, 1 million d'images. Ça paraît fou, mais en fait... typiquement là dans mon institut, on va pouvoir arriver à générer ce genre de database si on laisse de base de données, si on laisse des caméras au-dessus de plantes dans des serres, on peut arriver assez vite à ce genre de régime. Là ici c'est plutôt des images de la vie de tous les jours qui ont été rassemblées par des grands groupes comme Google, Amazon, etc. Et alors il s'est passé quelque chose qui a frappé aussi les esprits, c'est que Geoffrey Hinton, qui est un grand universitaire académique, il a rejoint Google. Et en fait, ça a été le cas de tous les pionniers de ce domaine-là. Ils ont rejoint les entreprises privées parce que c'est elles qui avaient les données, en fait. Et donc c'était parce qu'il y avait ces données supplémentaires que les algorithmes marchaient mieux. Et d'une certaine façon, on a vu tous les pionniers, donc y compris Yann Lequin, donc un Français qui a rejoint Facebook. Et puis tous, en fait. Voilà. Et puis, dans ces challenges, dans ces concours de traitement de données, vous voyez qu'à partir de 2014, là où avant, il y avait les anciennes méthodes qu'on voyait un peu reléguées, à partir de 2014, tout le monde s'est mis à faire cet apprentissage profond, ce deep learning, là où l'homme est complètement retiré de la partie apprentissage. La victoire est totale, et puis donc il y a une folie un peu médiatique qui s'empare, puisque Yann Lequin, on a pu le voir au journal de France 2, et puis il y a quelque chose qui a frappé les esprits, peut-être vous avez entendu ça, le jeu de Go, qui est un jeu qui est considéré comme étant même plus... il y a déjà quelques années, il y a eu un combat homme-machine sur les échecs, et donc le jeu de Go était considéré comme étant encore plus compliqué, avoir une combinatoire encore plus importante que celui des échecs, et là aussi les meilleurs joueurs de Go ont été battus par des machines qui fonctionnaient selon ces algorithmes. Donc tout le monde s'est rendu compte qu'il s'était passé quelque chose, pour l'essentiel parce qu'il y avait des nouvelles idées qui avaient été incorporées, mais plutôt parce qu'il y avait des plus grandes bases de données et des moyens de calcul qui étaient plus rapides. Alors voilà un exemple historique. Alors on voit Yann Lequin, donc on voit, ça c'est date de 1998, donc pour vous dire que c'est pas nouveau ces histoires. Donc quelqu'un, il y a des chiffres calligraphiés ou imprimés à l'ordinateur qui sont mis sous une caméra, et puis l'ordinateur voit ces images et il reconnaît les chiffres. On reconnaît qu'on est dans les années 90 parce que les PC sont beiges. Donc là même quand c'est pas très bien écrit. Alors l'application là c'était pour les chèques, la lecture automatique des chèques ou des adresses, même avec une écriture d'adolescent. Ouais, voilà. Ça marche aussi, donc on voit toute cette équipe. Donc ils ont tous fini chez Facebook après, alors qu'ils bossaient pour le Crédit Lyonnais avant. Voilà, donc un sacré succès de ces premières choses jusqu'à des illustrations dont je vais parler maintenant. Typiquement, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces méthodes? Je vais rester sur les aspects images. Donc, on peut classer ce qu'il y a dans les images, donc reconnaître qu'on a un chien, un léopard, etc. On peut aussi retrouver des images au sein d'une banque d'images. Donc, par exemple, vous avez une image de fleurs ou d'éléphants ici, et puis l'ordinateur va vous retrouver toutes les images dans lesquelles il y a des éléphants, sans forcément qu'il y ait marqué dossier éléphant dessus. Par le contenu, il va être capable d'aller retrouver ce qu'il y a dans cette image. Et puis j'imagine que vous en avez entendu parler, on va pouvoir aller plus fin dans les images, donc détecter des objets, et puis aller jusqu'à ce qu'on appelle segmenter, c'est-à-dire détourer les objets dans des scènes complexes, comme par exemple des humains qui marchent dans la rue, des voitures, etc. Et ça, c'est indispensable pour les projets de type voiture autonome. Hein, donc on parle de voiture autonome parce qu'on est capable de faire ce genre de prédiction de manière automatique dans la rue avec des très bonnes performances. Ça ne veut pas dire que ça va arriver demain, mais en tout cas, ça, c'est un des moteurs qui permet à ce que l'intelligence artificielle soit utilisée dans une navigation autonome ou assistant les humains dans les voitures du futur. Alors, des applications pratiques peut-être un peu plus humanistes que la voiture autonome qu'on voit à droite, c'est la détection automatique la prédiction automatique d'état de tissu en biomédical. Donc ici, vous voyez, c'est sur des grains de beauté, hein, où on a des grains de beauté sains ou bénins ou malins, et qui sont reconnus avec une précision qui a été montrée meilleure que celle produite par des experts qui sont des fois pas tous d'accord. Donc on montre que la machine est capable d'aller à une meilleure précision que ce que peuvent faire les humains. Il y a aussi des très bons résultats dans tout ce qui est cancer du sein par mammographie et donc également sur les mélanomes et autres grains de beauté. Pour des applications plus scientifiques, vous savez qu'il y a des télescopes un petit peu partout qui scrutent l'horizon en espérant trouver des nouvelles galaxies ou des traces de vie ou de ressources, etc. Et donc ces images sont des grandes banques d'images, et donc les ordinateurs sont capables aussi d'aller détecter par eux-mêmes, de reconnaître par eux-mêmes la présence de ces galaxies. Ou alors pour du suivi éthologique, essayer de retrouver où sont les grands mammifères marins, par exemple par des visions satellites. Ce sont des grandes quantités d'images, et donc l'ordinateur peut aussi venir pour faire ce décompte. Voilà, juste pour quelques illustrations. Bon, des applications un peu plus fondamentales, comme par exemple ici, l'idée, c'est un grand rêve des gens dans l'intelligence artificielle, d'être capable de partir d'une image et d'en faire une description sémantique, c'est-à-dire de produire un texte qui correspondrait au contenu de ce qu'il y a dans l'image. Donc par exemple ici, à gauche, il y a un homme sur une planche de surf et il est au bord de la mer. Ou ici, il y a un chat dans une valise, etc. Qu'un ordinateur puisse décrire le contenu, ce qui pourrait être utile pour... par exemple la production de sous-titres pour les malvoyants, pour le cinéma, des choses comme ça. Des applications plus ludiques que vous pourrez aussi voir, ça ce sont des démonstrations en ligne qui existent, de pouvoir reproduire le style d'un peintre, donc de, par exemple d'apprendre sur plein de tableaux de Van Gogh, comme ce qu'on voit à droite, et à partir d'une image, de pouvoir transformer comme appliquant un filtre sur la photo que vous avez prise, et de la faire à la manière d'un Van Gogh, donc de générer, pas uniquement analyser des images, mais également générer des images de synthèse. Alors peut-être vous avez entendu parler de ça, si on est capable de le faire pour un style, on est capable aussi de le faire de manière dynamique en vidéo. Donc il y a une fameuse vidéo d'Obama à qui on a fait dire un discours qu'il n'avait en fait pas prononcé, et donc il voulait montrer qu'il y avait la possibilité effectivement de fake news, comme dit Trump, si on a suffisamment d'images de la même personne, de pouvoir animer les lèvres et de faire dire à peu près ce qu'on veut à la personne de manière très réaliste. Alors bon, je vais aller vite là-dessus, mais bon, voilà, dans mon domaine, on va suivre on va essayer de détecter par exemple si des graines sont viables ou non viables par intelligence artificielle, essayer de suivre la croissance de plantules sur des géloses, on essaie de suivre la croissance des racines par des rayons X, et tout ça, toutes ces choses-là, Détecter, par exemple, les mauvaises herbes sur des lits de mâche, qui sont des cultures typiques du côté de Nantes. Ou encore essayer de prédire où est-ce qu'il faut mettre les espaces verts quand il y a des projets d'urbanisme. Et donc tout ça, on le fait aussi à partir de ces méthodes. Donc vous voyez que ça ne se limite pas qu'à la voiture autonome ou à certaines applications dont vous avez entendu parler. Alors là, je voudrais rentrer dans un aspect un petit peu spécifique de ma présentation et essayer de vous montrer comment ça marche. Et donc je vais vous montrer une démonstration en ligne. Si vous avez accès à Internet chez vous, vous pourrez montrer. Donc un petit démonstrateur qui va vous montrer comment marchent ces méthodes. J'essaie. Tentative. Alors, on a parlé de ces méthodes de réseau de neurones, d'apprentissage profond. Elles fonctionnent en mimant le cerveau, ce qui participe sans doute aussi de leur succès médiatique, hein, puisqu'il y a une idée comme si on avait reproduit un cerveau artificiel avec ces méthodes. Alors, comment ça marche? Si vous vous souvenez si vous avez quelques souvenirs de biologie, des années de lycée. Donc un neurone, c'est comme une cellule en fait, hein, c'est une cellule dans notre cerveau. Et puis il y a ce qu'on appelle des dendrites qui vont collecter l'information. Tout ça, ça va être sommé au niveau du noyau et puis ça va être renvoyé à d'autres neurones via cette partie-là qu'on appelle l'axone. Alors vous n'avez pas besoin de tout savoir ici. Grosso modo, ce qu'il faut avoir retenu, c'est qu'on collecte de l'information et puis on la transmet derrière. Alors il y a quand même une règle, c'est qu'on la transmet seulement s'il y a suffisamment d'informations qui arrivent en même temps. Donc s'il y a suffisamment d'électricité qui arrive en même temps, ça va déclencher une information. Le neurone tout seul décide que oui, ça vaut le coup, je transmets l'information. C'est comme si les décisions étaient réparties à différents endroits dans le cerveau, pas uniquement en un endroit, mais en chaque cellule individuelle, il y aurait presque une décision. Donc un neurone artificiel, il va faire ce qu'on appelle une somme, et puis il va passer par ce qu'on appelle un seuil, c'est-à-dire si je dépasse une certaine quantité, j'active, je transmets l'information. Si je suis en dessous, je ne transmets pas l'information. Et ce qu'on va appeler des réseaux de neurones, ben c'est tout simplement l'association de neurones comme ceci, connectés les uns aux autres. C'est-à-dire que celui-ci, par exemple, il reçoit de l'information de tous les neurones qui venaient de la couche d'avant, et puis celui-ci reçoit de l'information de tous les neurones qui venaient de la couche d'avant, et ainsi de suite. Et ça donne ce type de schéma. Je vous montre un petit peu le démonstrateur que vous pourrez réessayer chez vous si vous avez l'accès à Internet. Alors, je me suis connecté tout à l'heure. Alors, ça s'appelle Playground TensorFlow. Alors, Playground, en anglais, ça veut dire terrain de jeu. Et TensorFlow, c'est le langage qui a été développé par Google. Donc, c'est une application gratuite qui a été développée par Google. Alors, visuellement, c'est assez joli. Je vais essayer de vous expliquer de quoi il s'agit ici. Alors, on va être sur un problème de classification. Alors, si vous avez bien suivi, je vous ai introduit tout à l'heure la classification. On ne veut pas séparer poivron, feuilles vertes et cerf. Là, on voudrait séparer les points qui sont orange des points qui sont bleus. D'accord ? Automatiquement. Alors, l'ordinateur, lui, il ne sait pas ce que c'est que orange et bleu. Ça correspond au label. Comme tout à l'heure, il y avait poivron et feuilles. Et il doit essayer de trouver dans cet espace comment ou mettre une règle de décision pour séparer orange et bleu. Donc, nous, si on regarde ça, on est capable de, par exemple, prendre notre règle et puis de dire je vais tracer une droite ici. Tout ce qui est en dessous de la droite, c'est de l'orange. Tout ce qui est au-dessus de la droite, ça va être du bleu. Alors, on va fabriquer un réseau de neurones qui est capable de faire ça. Vous allez voir qu'il faut un cerveau très très limité pour une machine pour ça, puisque si je prends seulement un seul neurone, donc ce neurone qui est ici, et que je demande à la machine d'apprendre, hop, il va automatiquement trouver ici la règle de décision qui permet de séparer au mieux ces deux parties. Comment est-ce qu'il fait? Il va pondérer l'information qu'il y a venant de ce nombre-là, et de ce nombre-là, de manière à positionner la règle de décision optimalement. Donc vous voyez que tous les points qui sont dans la partie orange sont bien classés orange, tous les points qui sont dans la partie bleue sont bien classés bleu. Et donc l'ordinateur, je peux le relancer ici, et au début il ne savait pas, hein, et puis au bout de quelques itérations, hein, en le laissant calculer, il a trouvé tout seul la règle de décision. Donc vous voyez, et pour ça il faut un seul neurone, donc il suffit d'avoir un cerveau avec un neurone, on est déjà capable de faire ça. On va essayer de voir si cette machine-là est capable de traiter autre chose. Donc, par exemple, si je prends cette situation qui est un peu plus compliquée, puisque vous voyez, la structure des données, dans les coins ici, j'ai des oranges, et puis dans les autres coins, j'ai du bleu, je ne vais pas pouvoir séparer avec une seule droite les deux parties. Donc si j'essaye de faire ça avec mon neurone qui avait appris, il ne va pas arriver. Vous voyez, il me dit qu'il fait une erreur, ça c'est l'erreur, une fois sur deux il fait une erreur, donc grosso modo, j'aurais tiré au hasard, c'était la même chose. Mais j'ai la possibilité de représenter les choses avec d'autres composantes qui se rapprochent beaucoup de ma structure de données. Donc si je fais ça comme ça, vous voyez, l'ordinateur il dit « Ok, ça sert à rien d'utiliser ces nombres-là, je vais utiliser ces nombres-là et je fais une très bonne classification comme ceci. » Ce qui fait que maintenant, alors ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner tous les nombres qui sont à ma disposition et je vais demander à l'ordinateur, ben voilà, quel est le problème ici? Hop, il va se détecter tout seul qu'il faut s'appuyer sur ces nombres-là pour bien classer les oranges et les bleus ici. Quand j'étais ici, il va trouver tout seul qu'il faut prendre une combinaison linéaire, une combinaison de ces deux nombres-là pour faire une séparation. Alors vous voyez que la solution n'est peut-être pas aussi simple qu'on aurait aimé. Hein. L'ordinateur, il complexifie des fois un peu les choses. On appelle ça du surapprentissage. C'est-à-dire que, bon, il n'a pas fait forcément le meilleur choix. Et puis ici, tac, voilà, il va y arriver. Donc là, on a un début d'intelligence, si on peut dire. C'est toujours très difficile à définir, bien sûr. Mais on a une seule machine, un seul neurone qui est capable de traiter trois problèmes différents. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si on va traiter un problème plus compliqué comme celui-ci, cette spirale? Plus difficile à représenter. Bien sûr, pour nous, c'est instantané. On arrive bien à séparer la partie orange et la partie bleue. Et on a ces schémas géométriques. On serait même capable de le décrire ou de le redessiner. Et si je lui demande d'apprendre ici, eh bien, vous voyez qu'il n'y a aucune combinaison. Parce que c'est ça que fait le neurone. Il prend en entrée les informations de tout ça. Il n'y a aucune combinaison qui, en combinant tous ces nombres-là, est capable de reconstituer une spirale. Et c'est dans ce cas-là où on va avoir besoin de rajouter des neurones, donc de rajouter un petit peu de capacité de codage. Donc on va rajouter plusieurs couches, on va aller jusqu'à 4 ou 5 couches, peut-être 6. Je vais rajouter des capacités de codage ici. Je vais revenir après sur comment on fait pour ces réglages. Voilà, et puis je vais demander à nouveau à l'ordinateur d'essayer de... Alors j'ai quelques réglages un petit peu experts quand même ici, j'ai quelques trucs... Pardon. Ça devrait mieux marcher avec ce réglage-là. Alors, vous voyez, la courbe là, je la vois, il est en train d'apprendre, il est en train de chercher, et plus ça descend, plus il est en train de converger, et puis on voit que progressivement, sans qu'on lui ait dit qu'il y allait avoir une histoire de spirale, il est en train de se rapprocher d'une forme de spirale. Alors, c'est pas encore bien parfait, mais voilà, ça, on s'en rapproche. Ouais. Sans qu'il y ait eu aucun dessin de spirale ici, on voit que maintenant, dans les couches plus profondes, il a comme une représentation mentale d'un schéma qui ressemble à une... Alors là, il a perdu l'affaire. Il a une représentation mentale qui commence à ressembler à cette spirale. Donc, le profond du deep learning, c'est le fait de rajouter plusieurs couches, de manière à ce que, dans les premières couches, il voit des détails, il combine les choses et il va créer les structures qu'il est censé reconnaître automatiquement. Donc, maintenant, je peux refaire la démonstration, c'est-à-dire que ce cerveau un petit peu compliqué, il va être capable de traiter cette situation. Check. Cette situation. Check. Cette situation. Il y a un petit côté qui peut le plus, peut le moins. Alors vous voyez que là, il va encore chercher des choses peut-être un peu trop compliquées par rapport à ce qu'on aimerait. On a des astuces des fois pour faire ça. Et puis la situation de la spirale que j'ai montrée, donc avec une seule machine, on va être capable de traiter des exemples simplistes ou plus compliqués avec une même structure de raison. Pas mal, hein? Donc ça, moi je peux passer des heures à jouer avec ce truc-là. Ça fait déjà plusieurs fois qu'on me sollicite pour expliquer des choses là-dessus. Alors vous avez peut-être vu que tout à l'heure j'ai triché un peu, j'ai dit attention, ça va être mieux avec ceci, puis effectivement ça s'améliorait. C'est ce qui va rester à l'expertise humaine ici. Mais en fait, que le problème soit, quel que soit le problème ici, le niveau d'expertise est finalement très très bas, puisqu'il y a un petit nombre d'options qui est assez limité, et il ne nécessite pas de connaître forcément ce qui se passe au niveau des données de manière très avancée, comme c'était le cas avant, quand l'humain devait tout savoir comment combiner les choses. Grosso modo, c'est ce que fait en fait cette machine. Elle regarde comment combiner des nombres à l'entrée et elle fait des combinaisons de combinaisons de combinaisons et elle finit par trouver comment extraire de l'information à partir de tout ça sans qu'on lui ait dit qu'il y avait cette forme de spirale. Alors, Ça a évoqué plein de choses, parce que d'un point de vue biologique, par exemple, les gens se sont dit, ah bah oui, il y a une sorte d'analogie avec le cerveau, parce que ce sont des, on est parti sur des neurones qui s'inspiraient du neurone biologique. Et donc, on s'est dit, bah oui, donc ça veut dire que finalement, la prise de décision, elle n'est pas centralisée à un quelconque niveau, elle est distribuée sur l'ensemble du réseau. Ça veut dire que ça va être difficile d'expliquer la raison qui a amené à dire pourquoi ce point était bleu et pourquoi ce point était orange. Parce que pourquoi ce point est bleu et pourquoi ce point est orange, c'est le résultat de l'ensemble des poids. Les poids sont représentés par la force des liens qui sont représentés ici. Et donc, la prise d'information est mise partout. Et ça, c'est compliqué. Ça complique les choses. Typiquement, si on réfléchit à la situation médicale, quand vous avez un diagnostic, le staff médical est capable de donner un rationnel sur la base de l'image, par exemple, qu'il a regardée, etc. Alors que là, si on a mis une image à l'entrée, la raison du choix fait par la machine est distribuée sur l'ensemble des neurones qu'on a ici. Donc, on ne peut pas formuler une interprétation rationnelle du choix de la machine. Ça ne posait pas de problème quand il s'agissait juste de dire que si c'était un 5, un 4 ou un 3 dans les images, parce qu'il n'y avait pas mort d'homme en fait, et on ne voulait pas savoir si effectivement le chèque arrivait un jour plus tard. Bon, voilà, la machine avait échoué. Donc ça, c'est une vraie difficulté, et je voulais vraiment prendre le temps de vous le montrer ici pour que vous figuriez finalement cette révolution, c'est que la prise de décision, elle est distribuée partout. Le niveau d'expertise humain est considérablement réduit puisqu'il s'arrête au réglage de ces quelques paramètres qui seront les mêmes quel que soit le problème, c'est-à-dire que je mets des images d'éléphants, je mets des images de mélanomes, je mets n'importe quoi, l'expertise pour régler ça, elle est la même. Ouais. On avait convenu que ça, c'était quelque chose de, effectivement, complémentaire, peut-être de vision plus d'ensemble que vous pouviez avoir par d'autres présentations. Alors, voilà. Alors, je voudrais revenir sur les quelques conséquences. On a vu en pratique comment ça marchait. Donc, concrètement, les gens qui utilisent ça, ils n'utilisent pas l'application. Là, c'est une application jouée, ce que je vous ai montré. Mais concrètement, ça va être quelques lignes de code C'est vraiment, les programmes sont très courts. Et la personne va juste régler les choix de tel ou tel paramètre, le nombre de neurones, combien de couches. Voilà l'expertise que va avoir un data scientist qui fait ça. Et d'ailleurs, dans le numéro spécial de Libération, il y avait quelqu'un qui disait, j'en suis réduit à tourner des boutons, et en fait c'est effectivement ça. Des fois même les doctorants ou les scientifiques s'ennuient un petit peu à ce genre de choses quand ils sont que utilisateurs de tout ça. Alors bon, voilà, pour ouvrir un petit peu le débat, je voudrais revenir sur quelques conséquences pratiques de l'utilisation de ces technologies qui sont celles d'aujourd'hui et qui sont déjà largement utilisées par un certain nombre d'entreprises. Bien sûr, l'intelligence artificielle va évoluer, etc. Alors, la laideur du deep learning, c'est évidemment donc que, ça, je vous ai présenté la beauté tout à l'heure, c'est qu'on a une machine qui est capable de traiter plein de problèmes, mais évidemment, on a enlevé l'humain de l'affaire et on a abaissé le niveau d'expertise. Donc, ce qui était quelque chose d'intellectuellement stimulant est devenu un domaine finalement qui peut être assez presse-bouton. Conséquences économiques. Alors moi, quand j'ai commencé à faire de l'enseignement recherche, ma passion, dans les années 2000, quand on développait un algorithme comme celui que je vous ai montré juste avant en ligne, là, ça pouvait mettre un an à ce qu'on imagine les nombres qu'on allait utiliser, comment on allait combiner tout ça pour avoir, et puis de déployer tout ça pour avoir une solution, par exemple, sur un problème industriel. Aujourd'hui, pour des problèmes comme les problèmes pratiques que je vous ai montrés avant, reconnaître des humains dans la route, en une journée, vous pouvez avoir une solution. Il y a un prix à ça, je vais revenir là-dessus, et je le dis, je l'ai testé, y compris avec des non-experts, c'est-à-dire que moi j'interviens beaucoup avec les biologistes, on prend des collègues biologistes végétalistes, s'ils ont suffisamment d'images et un calculateur, ils vont pouvoir avoir une solution à leur problème en une journée. Ça augmente les cadences. Alors, bon, je vais zapper peut-être cet exemple-là, qui est pas... Enfin, si, je vais peut-être vous le montrer. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire, excusez-moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Que va faire la personne qui... le boulot, à quoi va ressembler le boulot de quelqu'un qui fait du traitement d'image aujourd'hui? C'est quelque chose que je montre quand j'interviens à Supoptique, à l'INSA, etc. Quand j'interviens dans des ingénieurs qui veulent faire leur métier de ça, je dis attention, voilà le niveau de ce qu'on va vous demander, il va falloir faire plus parce qu'on est à des choses où même des non-experts vont pouvoir avoir des très bons résultats. Donc typiquement ici, c'est un problème de cytologie, c'est de la microscopie électronique. On a des cellules qui ont cette forme un petit peu anormale, et puis d'autres qui ont cette forme plus ronde, plus classique. Et on aimerait faire un tamis qui sépare en fait les deux types de cellules. Donc c'est un problème de classification. Hein. On a deux cellules, il y a une cellule A, cellule B, on voudrait les séparer, que la machine apprenne à ça. Donc je vais vous montrer avec un petit logiciel qui s'appelle Fiji. C'est un logiciel qui a été développé par la recherche publique américaine dans les années 90 et dans laquelle vous trouvez ce type d'outils que je vous ai présenté avant. Donc, voilà où se situe mon niveau d'expertise après tant d'années d'études. Je dessine, je dis à l'ordinateur, ceci est du fond. Je lui dis, ceci est une cellule comme ceci, et puis ceci est une cellule comme ceci. Alors, je vais créer une nouvelle classe. Je vais dire, ça, c'est rond. Et puis, je lui dis, voilà, ça, ce sont des pixels qui sont dans l'autre cellule. Et puis, je lui dis, ben, travaille là-dessus. Voilà où s'arrête l'expertise. Voilà. Alors évidemment, le résultat ne va pas forcément être optimal là. S'il n'est pas complètement optimal, je vais lui dire « Ah, tu t'es trompé là » et recommence un petit peu avec davantage d'exemples. Et quand il aura eu assez d'exemples, eh bien, je m'arrêterai de peindre des... voilà. Vous voyez, en quelques secondes. Alors là, il a bien fait le fond et les cellules. Par contre, il n'a pas bien différencié les cellules. Donc, je vais lui donner davantage d'exemples sur ces cellules. Voilà, les cellules 1, et vas-y, réentraîne-toi. Vous savez qu'il y a des laboratoires en fait, de recherche aujourd'hui qui payent des équipes pour faire ça à l'autre bout du monde. Voilà. Et c'est même des jobs que vous pouvez faire sur un service d'Amazon, qui s'appelle Amazon Mechanical Turk, où vous pouvez annoter des images comme ça, et pour quelques cents, vous allez participer à des projets scientifiques. Voilà, donc on voit que ça s'améliore, c'est-à-dire que le violet est un peu mieux. Et puis voilà, avec une bonne playlist et un bon écouteur, on peut faire travailler à peu près n'importe qui pour ce genre de choses. Mais le niveau de qualification est extrêmement faible pour faire ce genre de choses. Voilà. Alors, je voudrais revenir sur cette vidéo. Et puis j'ai déjà un peu vendu la mèche, mais il y a un problème éthique en fait dans cette vidéo qui est... Parce que là, tous ces gens en plus sont passés chez Google et ça, donc on est, ils étaient géniaux, ils avaient fait des choses superbes très tôt. Et le problème éthique, c'est qu'ici, évidemment, il n'y a aucun problème éthique sur cette vidéo, sur ces données, d'accord. Et évidemment, quand les algorithmes sont les mêmes que ceux qui étaient à l'époque, mais quand on les applique à des données médicales, il y a d'emblée effectivement un problème éthique qui va se poser. Est-ce que le médecin est capable d'interpréter le diagnostic posé par la machine? Et je vous ai expliqué que dans la mesure où justement le diagnostic était distribué sur l'ensemble du réseau de neurones, il ne pouvait pas s'exprimer, en tout cas actuellement, en des termes qui soient intelligibles par un humain, ce qui pose un souci pour le patient qui a besoin de cette relation avec le spécialiste. Donc on voit que voilà, là c'est génial, ils ont un enthousiasme fou, et en même temps la transposition mécanique a des problèmes qui nécessitent une relation humaine avec le diagnostic, eh bien, doit amener des questionnements éthiques. Et donc il y a beaucoup de gens qui réfléchissent là-dessus actuellement. Alors, pour animer un peu les esprits en cette fin de présentation, donc il y a des conséquences épistémologiques, comme vous avez pu le voir, j'ai insisté beaucoup là-dessus, hein, j'ai fait un travail un peu bête, je peinturlure des images, et j'ai quelque chose, j'ai un résultat, j'ai de l'efficience, mais je n'ai pas forcément de la science derrière. Ça ne veut pas dire que les gens qui ont développé les algorithmes n'étaient pas scientifiques, c'était très scientifique, mais l'usage de ces algorithmes peut amener à ce que j'ai quelque chose qui soit très efficace, et pour autant, je ne sais pas pourquoi ou comment la machine a fait exactement pour avoir cette efficacité. Alors il y a un très bon livre, puisqu'on a une relation un petit peu de... éducation populaire là, dans le cadre de cette association, un très beau livre là, que j'ai lu récemment là, de Hubert Krivine, qui s'appelle « Comprendre sans prévoir et prévoir sans comprendre », avec une préface de Jean-Claude Amezen, que peut-être beaucoup de vous connaissent, via ses émissions sur France Inter. Il insiste sur le fait que cette relation entre la prédiction, donc prévoir, c'est pas forcément comprendre, et comprendre, c'est pas forcément prévoir. Alors, prévoir sans comprendre, c'est ce qu'on fait avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, d'une certaine manière. Et comprendre sans prévoir, c'est ce qui se passait dans tout ce qui était théorie du chaos, où on est capable de comprendre pourquoi l'histoire du battement d'aile d'un papillon, pourquoi des conditions initiales d'un système mécanique à très peu de degrés de liberté, si elles ne sont pas parfaitement maîtrisées, eh bien, peuvent produire des conséquences qu'on ne peut pas pas prédire, alors qu'on a exactement compris pourquoi ça se passait. Donc on peut très bien comprendre les mécanismes sans forcément être capable de prévoir ce qui va se passer. C'était tout ce qui était théorie du chaos. Et puis donc la deuxième partie de l'ouvrage qui est plutôt consacrée sur les aspects d'intelligence artificielle où là, eh bien, on arrive à prévoir, mais on ne comprend pas forcément ce qui se passe. Et Marc Mézard aussi, qui est un célèbre scientifique, donc actuellement il est directeur de l'École normale supérieure à Paris, et donc dans un article récent, il dit « But they are very far from being intelligent ». Effectivement, les machines que je vous ai décrites sont très loin d'une réelle intelligence, puisqu'elles prédisent, elles ne sont pas capables d'expliquer. Hein, on dit des fois, quand on a bien compris, c'est qu'on est capable d'expliquer à un autre ou d'enseigner. Ces machines ne sont pas capables de nous... On leur a appris, mais elles ne sont pas capables de nous apprendre, en tout cas, pas dans la forme que j'ai présentée aujourd'hui. Là. Et donc, quelque part, ça pourrait être un objectif de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'ils peuvent apprendre à des humains? Voilà, ça serait quelque chose... Voilà. Alors, des conséquences politiques. Donc, bon, échauffer un peu les esprits, encore pour finir d'échauffer les esprits, ou d'éveiller... Ces technologies, elles posent évidemment des questions à nos démocraties. Il y a eu un premier signal d'alarme au niveau du Sénat sur 2013. Donc, vous voyez, c'était un an après cette révolution de l'apprentissage profond. Le Sénat tirait la sonnette d'alarme en disant il y a une perte de souveraineté de l'Union européenne sur ces données, puisque en fait, on n'a pas de géant du numérique. Donc, finalement, les données, elles sont propriété de tous ces services que l'on a gratuitement, puisqu'on est le produit en fait de ces compagnies. Donc c'est un rapport par Madame de Sailly qu'on voit ici. Et puis donc vous avez pu voir dans le... Alors, il y a eu des choses où on a même accéléré la course. Donc ça c'était dans le quinquennat précédent où typiquement l'éducation nationale avait signé que toutes les écoles allaient utiliser les produits Microsoft. Ouais, on a des belles photos comme ça, on était fiers de s'afficher avec des géants comme ceci, alors qu'il existe des produits libres voilà, qui ne nous livraient pas forcément autant à cette... Donc on est quand même dans une logique de colonisation, je défends un petit peu ce point de vue aussi, quand nos politiques, qui sont censés être l'élite de la nation, là, font ce type de signature, bon, on peut se poser des questions. Dans le rapport Villani, qui date d'un an, donc il y a un certain nombre d'informations, c'est tout à fait lisible comme langue. Alors il y a différents niveaux de lecture, donc par exemple ici, on veut faire des bacs à sable pour innover sans lourdeur administrative. Ces bacs à sable, ça signifie on va ouvrir des données publiques par exemple, à un certain nombre d'acteurs, et on va essayer de confiner ces choses-là. Sans lourdeur administrative, ça veut dire qu'on lève des verrous. Alors, ça y est, c'est en action, puisque je suis allé voir là sur Agnès Buzyn, elle a signé l'accès, par exemple, à la carte d'assurance maladie sur certains hôpitaux. Vous savez, quand vous aviez votre carte verte, normalement, vous alliez sur site à la sécurité, à la sécu, et les données, vous n'y aviez accès que sur la machine. Là, on va pouvoir y avoir accès sur le smartphone. Donc ça veut dire qu'en fait, les personnes qui vendent des plateformes de smartphones ont accès à nos données de santé, ce qui est une force d'un étage à commun comme le nôtre, où justement toutes ces informations-là pourraient permettre de répondre à un certain nombre de questions environnementales. Est-ce que l'air est plus pollué à Paris qu'à Lyon, ou que sais-je d'autre, etc. Et en mars 2019, donc un an après ce rapport Villani, donc le Sénat déplore l'absence d'une véritable politique industrielle en Europe, donc qui effectivement nous limite dans notre capacité de citoyens à pouvoir finalement tirer pleinement parti de ça pour des questions qui sont politiques, dans lesquelles on serait acteur et pas juste consommateur, ce qui est un peu notre situation actuelle. Jusqu'où ? On verra. Ça serait là. Donc, mes conclusions, donc, c'est que j'ai essayé de vous montrer que ces histoires d'apprentissage machine, c'est une automatisation de méthodes existantes et qui ont été amenées jusqu'à remplacer les humains. Elles fonctionnent aujourd'hui remarquablement. J'ai expliqué cette histoire de 2012 parce qu'il y avait des banques de données qui étaient très très grandes et ça a changé le régime et puis des moyens de calcul qui étaient plus importants. Je l'ai illustré ici aujourd'hui sur des images où c'est mon domaine d'application, mais en fait ça s'applique à tout type de données temporelles, climatiques, etc. L'expertise à acquérir est relativement simple. J'ai essayé de l'illustrer parce que finalement, si on est capable de jouer avec TensorFlow, là, l'apprentissage du code se fait très très facilement. Je vous dis, moi, en deux jours, à des étudiants biologistes, pas du tout férus d'informatique, on arrive à leur faire résoudre n'importe quel problème. et puis une expertise simple à acquérir, donc qui ne va pas forcément créer que des emplois très qualifiés. Donc ça, c'était aussi un point de détail que je voulais, enfin, un point que je voulais souligner, qui ne ressort pas forcément dans les enthousiasmes ou les personnes qui tirent la sonnette d'alarme sur l'intelligence artificielle. C'est, ça va créer des emplois, mais des emplois assez peu qualifiés pour ce type de travail qu'on a là. Donc, oui, ben, voilà, je réponds à toutes les sollicitations de formation au numérique dans les entreprises, etc., pour que, effectivement, je pense que c'est important qu'il y ait une formation à ces outils et que même les citoyens soient éclairés sur les conséquences, pas des technologies dans 10 ans, 15 ans, mais déjà celles qui sont accessibles ici. Et puis, en l'absence actuelle de géants numériques européens, ben donc les partenariats publics-privés, qui sont très poussé en tout cas par le pouvoir en place, peut poser question, puisqu'ils sont conscients à critique dans la mesure où on n'a pas de plateforme dans laquelle finalement on serait sûr d'avoir nos données à disposition. Vous avez entendu les Huawei, les Google, etc. Les données sont pas chez nous. Donc si on ouvre nos données publiques et qu'on essaie de bénéficier de cette révolution numérique, en fait, on donne nos données, donc une part de notre identité, une part de notre espace public. Et donc ça, c'était un point fort dans cet espace laïque, là, donc une part de l'espace public. Comment aller plus loin? Et là, je finis avec un petit blague parisien, tout en restant intramuros. Alors, il y a de très bons cours au Collège de France qui sont visibles en vidéo, mais aussi auxquels vous pouvez assister. Il y a des chaires industrielles et des chaires numériques avec d'excellents enseignants, orateurs, conférenciers. Il y a également un MOOC, donc un cours en ligne d'un enseignant de Paris, donc Nicolas Thom, qui est très très bien aussi, sur un site qui s'appelle France Université Numérique. Si vous êtes intéressé par les questions éthiques, alors je suis désolé, pour l'instant il n'est pas traduit en français, il est en anglais. C'est le livre qui s'appelle Hello World, comment rester humain à l'ère du numérique. Et grosso modo, une des conclusions, c'est de dire qu'il faut qu'on essaie de développer des algorithmes qui ne soient pas auto-centrés sur la machine, mais qui incluent l'humain comme une part du processus, donc qui parle aux humains. Et puis il y a un chercheur français qui travaille actuellement avec le MIT, qui a fait une machine qui s'appelle Moral Machine Experiment, donc une expérience en ligne de machine morale. Vous en avez peut-être entendu parler dans les médias, qui pose des questions. Imaginons qu'on est à l'ère de la voiture autonome. Vous allez, si vous faites un virage dans telle direction, vous allez risquer d'écraser une personne, ou si vous dégagez, vous risquez de mettre en danger la vie des occupants. Comment choisissez-vous entre ces deux Voilà, donc là, il y a une réflexion morale. Je pense qu'aucune des bonnes solutions, aucune des solutions est bonne ici. À partir du moment où on accepte ce type de marché d'une certaine manière, mais donc je vous invite à aller voir, vous faire une idée par vous-même. La mairie de Paris, et comme beaucoup de mairies en France, c'était Obama en 2008 qui avait initié le mouvement, et dans démarche d'ouvrir un certain nombre de données publiques. Donc en fait, il y a un certain nombre d'informations publiques sur la ville de Paris comme système qui produit des données sociales qui sont accessibles. Donc ça s'appelle Open Data Paris. Vous pouvez consulter ces données. Il y a des outils de visualisation de ces données en ligne. Également, il existe des challenges de traitement d'images ou de traitement de données. Donc beaucoup d'écoles d'ingénieurs utilisent ce type de données. Et puis rencontrer des acteurs de la data. Donc il y a des trucs sympas, on a ça nous aussi dans l'Ouest là, qui s'appelle Datapéro. Donc c'est des mélanges avec des entrepreneurs, des académiques, des curieux, et puis on traite de sujets autour des données. Et enfin, il y a une association à Paris qui s'appelle Association Data for Good, qui se propose, bah, par exemple, d'aller, qui organise des conférences, des débats, justement, sur aller regarder en détail des données sur la manière dont la vie se passe à Paris, de creuser là-dedans et de rendre compte aux citoyens de ces choses-là. Voilà pour l'ouverture vers plus loin. Et donc, je vous remercie pour votre deep attention, donc votre attention profonde et humaine. Merci.